Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez consacré votre vie à la santé d'enfants dont la fraîcheur de l'âme a heureusement compensé la fausse chaleur de politique qui ne travaille pas toujours comme des malades. Bonjour Edwige Gentier.
Oui, bonjour Jacques.
Alors, il y a un livre qui sort, Maman de tous les enfants du monde. On va en parler tout à l'heure chez, à l'Archipel. Mais ce livre raconte votre vie et votre vie est parsemée d'événements qu'on va évoquer à travers des dates clés car c'est le principe de l'émission. Et la première date, elle ne vous concerne pas directement mais indirectement. C'est une date, le 27 mars 1942, sortie d'un film dont la tête d'affiche est celle-ci.
Elle était toute habillée dans une sorte de mauve rose. Elle est venue vers moi, elle m'a embrassée.
La Duchesse de Langeais avec Edwige Feuillère. Et vous vous appelez Edwige Antier à cause ou grâce à Edwige?
Voilà, mon père disait, je donne à mes filles le nom d'une actrice que j'adore pour que ma femme ne soupçonne pas que ce soit le nom d'amoureuse que j'aurais eue.
Donc Edwige Feuillère, et vous êtes devenue Edwige Antier. Il faut savoir que Edwige Feuillère, aujourd'hui, il y a trois places à son nom. Sa ville natale, Vesoul, un village de Lestioux, dans le Loir-et-Cher, où elle voulait se reposer. Et enfin, il y a la place Edwige Feuillère à Paris.
C'est, dire... c'est un nom, un prénom fantastique. On a beaucoup critiqué quand mon père me l'a donné. Et puis finalement, j'ai adoré le porter toute ma vie. Je le porte encore et c'est vraiment un bonheur.
Alors, vous êtes née à Toulon, à un moment très difficile de notre histoire, c'est-à-dire le sabordage de Toulon. Et ça vous a marqué. Enfin, c'est surtout votre père que ça a marqué, Edwige Antier.
Oui, mon père était officier de marine. Et donc, il était basé à Toulon parce que la flotte avait dû se mettre à Toulon en zone non occupée. Mais donc, je suis née à ce moment-là. Mais malheureusement, eh bien, les Allemands sont arrivés et il a fallu saborder la flotte. Et il a ainsi coulé le bateau dont il était l'ingénieur. Et franchement, ça a toujours été un deuil pour un patriote, un ingénieur, d'avoir coulé son bateau parce que les ordres avaient été mal... voilà, la guerre était mal gérée et il était très, très en colère de ce sabordage.
Et d'ailleurs, vous avez conservé, je crois, l'opercule du canon.
Oui, oui, j'ai toujours... voilà. C'est un souvenir extraordinaire qu'il a toujours eu chez nous, avec beaucoup de soin. Voilà, c'était ce drame. Donc, je suis née juste au moment d'un grand drame pour notre pays. Et pour mon père.
Vous avez connu plusieurs pays dans l'enfance, notamment vous avez été au cœur des rizières à Binh Dong.
C'est ça.
Comme Chantal Goya d'ailleurs, qui est née à Saïgon et qui a dû partir lorsque les Français ont été menacés par le Viet Minh et les Japonais. Elle a dû fuir et a fini par passer 3 mois à bord d'un paquebot pour revenir en France.
Et on ne parle pas souvent de ces enfants qui ont été les enfants de la décolonisation. Qu'est-ce qu'on a vécu? On a complètement perdu d'un coup le pays de notre enfance. Et quand on était en métropole, on n'était pas les bienvenus parce que la France préférait oublier ces mauvais moments. Et finalement, on a eu du mal. On s'est senti toujours expatrié partout. Ça a été compliqué.
Alors que c'était des moments fabuleux, des moments paradisiaques à Saïgon, Edwige.
Ah oui, pour une petite fille. J'ai grandi vraiment dans les rizières parce que mon père dirigeait une usine à décortiquer le riz. Vous savez, c'est comme le blé. Il y a une écorce qui s'appelle le paddy. Et il faut, avec des usines, l'enlever du riz. Et donc, nous étions complètement dans des rizières. J'ai vécu au milieu des paysans, au milieu des buffles, avec les ventilateurs. Il n'y avait pas de climatisation et c'était une forme de chaleur, de liberté avec les Vietnamiens qui étaient un peuple d'un raffinement extraordinaire. Et ça a été mes yeux se sont nourris de l'enfance de ces petits Vietnamiens des rizières.
Ça a été beaucoup plus difficile quand vous êtes rentré en France. D'abord, il y a eu la pension pendant un an à Chambéry.
Oui, comme la guerre éclatait, on m'a envoyé à Chambéry dans la neige, tout simplement parce que mes parents avaient un correspondant là-bas. Je suis passée de 30 degrés à moins 10 degrés en sachant pas ce que je faisais là et ce qui allait encore arriver à mes parents qui étaient restés là-bas. Et vraiment, ça a été un choc épouvantable qui me fait aujourd'hui mieux comprendre ce qui arrive aux migrants, aux gens qui perdent leurs racines. et qui tout d'un coup doivent refaire toute leur grammaire, c'est traumatisant.
Et il y a eu aussi ensuite, bon, vos parents sont revenus, le lycée Hélène Boucher, où d'ailleurs, où il y a eu comme élèves quand même Sylvie Vartan, Françoise Sagan et Annie Girardot, et vous ?
Oui, c'est ça. Mais quand j'ai connu le lycée Hélène Boucher, mes parents étaient très stricts d'éducation. Ma mère était professeure, mon père était ingénieur, il fallait être première en classe. Et mon père disait, si tu n'as pas le prix d'excellence, je ne viens pas à la distribution des prix. Et il ne venait pas. Donc j'avais l'habitude de l'excellence, du travail, il fallait être bon. Et à Hélène Boucher, ma première note a été -2,5/20. Alors là, vous voyez, vous savez vraiment plus qui vous êtes. Bon, mon père, qui était sorti des grandes écoles, major et tout, m'a dit, ma pauvre, avec commisération, je vais t'apprendre à faire une dissertation. La prochaine fois, c'est moi qui l'a fait. Mais sauf que quand mon père l'a fait, il a eu, lui, +2,5/20. Donc, ça s'est calmé les reproches à la maison parce que d'Hélène Boucher, je ne me souviens pas d'un accueil vis-à-vis d'enfants qui sortaient comme ça de la guerre, vraiment chaleureux et attentionné. Et finalement, heureusement, le destin a fait que nous sommes partis, à nouveau vers nos cieux protégés. Et j'ai vraiment été soulagée de partir.
Et un jour, vous avez annoncé à votre père et à votre mère que vous vouliez être pédiatre.
Voilà, j'ai dit...
C'est venu comme ça.
C'est ça. J'avais eu un peu l'idée d'être professeur d'histoire. Mes parents m'ont dit non, professeur, tu peux faire un métier scientifique. Alors j'ai dit bon, médecine. Ah, mon père, oui, voilà, il faut que tu sois médecin. Ah, j'ai dit d'accord, mais à une condition, je serai pédiatre. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était protéger les enfants, comprendre les enfants, soigner les enfants, m'occuper des enfants. C'était dès l'âge de 15 ans,
Et ça s'est fait, mais vous n'avez pas été que cela. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 23 juillet 2009. A tout de suite sur Sud Radio avec Edwige Antier.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Edwige Antier. Donc vous êtes pour l'instant la maman de tous les enfants du monde, on en parlera tout à l'heure, c'est un livre. Mais là, la date du 23 juillet 2009, vous n'avez pas oublié.
Ah non, bien sûr, c'était vraiment un jour fondateur. J'avais traversé une période difficile où j'avais vraiment été concentrée sur d'autres problèmes. Et quand on m'apprend le soir que Pierre Lellouche montait au gouvernement et que donc, moi qui étais sa suppléante, je devenais députée, j'ai vraiment été dans une grande, grande joie parce que j'avais déjà eu des fonctions politiques, en particulier en Nouvelle-Calédonie, et la vie politique me passionnait. Et je savais que je pourrais faire encore beaucoup de choses pour l'enfance en ayant un mandat. Donc ce soir-là, ça m'est à la fois tombé dessus. J'avais même pas écouté le matin la composition du gouvernement, tellement je n'attendais pas sage. Mais ça a été vraiment, un grand moment quand même.
Alors, on vous a dit, oui, les séances de nuit, ça va être difficile. Pas du tout pour vous, puisque la sonnerie du téléphone à 3h du matin, Edwige Antier, c'est votre quotidien.
26 ans, je sortais de 26 ans de maternité. Et donc, 26 ans à se lever la nuit pour un accoucheur qui a peur que le bébé n'aille pas bien. Et là, c'est la chose la plus difficile d'une vie, de réanimer les bébés à la naissance et de faire que leur cerveau soit protégé. Alors moi, être là la nuit en séance à l'Assemblée, c'était pas grand-chose. Oui.
Et d'ailleurs, quand on devient, comme vous, pédiatre et qu'on se trouve à l'hôpital, vous le dites d'ailleurs dans ce livre, on cultive l'anxiété, Edwige Antier.
C'est ça. Quand on devient jeune pédiatre, on a très très peur de se tromper. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour mon premier patron. Un jour où je l'appelle le soir et je lui dis « Excusez-moi, j'ai besoin de votre conseil, je suis peut-être trop anxieuse. » Et il m'a dit « Il n'y a de bon pédiatre qu'un pédiatre anxieux. » Je l'ai gardé comme devise.
Alors, vous êtes arrivée dans ce monde de la pédiatrie à un moment où les femmes étaient rares dans les salles de garde, Élie Gentier.
Ah oui, et là, vous savez, quand j'ai eu ma nomination au concours de l'internat, eh bien évidemment, tout de suite, un garçon à côté m'a dit « Mais... qu'est-ce que tu as fait de présenter ce concours ? Tu nous prends une place alors que tu seras femme de médecin. » Parce que les filles venaient, à ses yeux, en médecine pour épouser un médecin et ensuite ouvrir la porte et tenir l'agenda, n'est-ce pas ? Et donc, ça ne servait à rien que j'ai le concours d'internat. Je lui piquais une place pour rien. On en était là encore.
Et vous avez été ensuite la première interne affectée à l'Institut de puériculture.
C'est ça, parce que l'Institut de puériculture, c'était vraiment le grand hôpital pour les prématurés. Que des petites crevettes, des tout petits bébés qui étaient amenés là de toutes les maternités de France. Et il n'y avait jamais eu un interne des hôpitaux de Paris titré qui est considéré comme noble de venir s'occuper des prématurés et des nouveau-nés. Et j'étais la première à prendre ce poste. Et quelque part, je pense qu'aujourd'hui, on est passé par la noblesse de la réanimation néonatale. Mais c'était vraiment les débuts.
Et vous avez ensuite été affectée, et là je crois que c'est votre bâton de maréchal, à l'hôpital Necker, Edwige Gentil.
Ah, l'hôpital Necker, c'est notre, voilà, notre grande université à tous, notre grande école à tous. Necker enfants malades. C'est vraiment la normale sup de la médecine, vous voyez, ça reste ma maison.
Et l'hôpital Necker a été fondé par Madame Necker, on l'oublie, en 1778. C'était la mère de Madame de Staël et l'épouse de Jacques Necker, qui était le ministre des Finances de Louis XVI, qui avait voulu cet hôpital.
Voilà, donc l'alliance entre une femme de charité et un financier.
Alors, il y a eu donc le côté pédiatre à l'hôpital et puis la politique. Et effectivement, vous vous retrouvez un jour en Nouvelle-Calédonie, Edwige Gentil, et vous commencez à faire de la politique.
C'est ça. Alors là, c'est un petit peu fou parce que j'ai 32 ans et j'ai constaté depuis quelques années, parce que je suis retournée à Nouméa après mes études de médecine, étant donné que je me demandais comment on faisait pour vivre en métropole où j'avais eu du mal, j'avais été mal reçue en jeune fille. Mais sous ces cieux du Pacifique, moi qui sortais de l'assistance publique, grande maison de l'égalité des soins pour tout le monde, eh bien j'arrive dans un territoire où les Mélanésiens appelaient les dispensaires gratuits pour eux des passe-avants. Parce qu'on faisait d'abord passer le métropolitain, après le calédonien de souche et après le mélanésien. Des passe-avants. Ce n'était pas possible, cette médecine à deux vitesses. Eux, ils avaient une médecine gratuite et on allait faire un grand établissement hospitalier uniquement pour ceux qui pourraient payer. Et donc, je me suis engagée. Vraiment, c'était utopique. J'ai créé la Fédération radicale de Nouvelle-Calédonie. Et j'ai obtenu, j'ai à la fois été élue, et dans mon mandat à l'Assemblée, eh bien, j'ai obtenu que l'on fasse un hôpital pour tous, qui est maintenant l'hôpital territorial de Nouvelle-Calédonie. La politique, ça peut servir.
Oui, mais la politique, on en connaît aussi les limites. Vous avez subi cela avec pas des menaces, mais des échanges qu'on vous proposait au téléphone.
Ah ben complètement. La politique, vous savez, quand on est une femme, c'est quand même encore plus difficile. Je pense que pour les hommes, déjà, c'est toujours des jeux de bonne taux très compliqués. Mais une femme, et en plus, on me disait toujours, toi, tu viens de la société civile. Eux sont des gens, vous comprenez, très importants, qui savent ce qu'il faut faire. Mais quand on voit ce que ça donne bien souvent, je crois que c'est très bien quand on vient de la société civile de s'engager en politique pour faire quelque chose.
Et vous racontez dans votre livre de souvenirs, Edwige Gentil, qu'un jour vous avez Jacques Lafleur, qui était le maître du pays au téléphone, qui vous propose un marchandage qui ne vous convient pas, et à sa grande surprise, vous allez résister.
C'est ça. Il me dit, mais je ne savais pas. Je soignais ses enfants, bien sûr. Il me dit, mais je ne savais pas que vous vouliez faire de la politique, Edwige. Venez sur ma liste. Alors lui, il avait la liste, vous savez, RPCR, c'est-à-dire RPR. C'était vraiment un mandarin. Venez sur la liste et vous serez la première femme élue à l'Assemblée territoriale. Mais là, toute seule, vous ne serez pas élue et vous allez me faire perdre des voix. Mais j'ai dit, Jacques, je ne viens pas pour être élue, ce n'est pas ma finalité. Je viens pour dénoncer les projets qui se font en matière de santé et pour unifier. Et je ne viendrai pas chez vous. Et j'ai obtenu d'avoir la présidence de la commission de la santé.
Et quelquefois, vous avez fait des scandales parce qu'il y avait des interruptions de séance qui ne vous convenaient pas.
C'est ça, parce que ces messieurs, vous voyez, allaient fumer un cigare en arrêtant les débats, histoire de palabrer, aimaient bien ça. Mais moi, j'ai dit à ce moment-là, quand on est revenu de la suspension de séance qui n'avait servi à rien, je suis venue dire que les femmes... Parce que vous savez, on dit en politique, les femmes, elles sont intuitives, tout ça. Non, non, c'est pas ça notre différence. Nous, c'est qu'on est pressé, on veut faire, on veut agir, parce que nous, on a plusieurs vies. On a aussi la vie de nos enfants. Et donc, on est pressé, les suspensions de séance pour rien, non merci.
Oui, parce qu'il y a la pédiatrie, il y a les enfants, et il y a la politique, ça fait beaucoup de choses en même temps, voilà. Faut tout gérer.
Les vies de femmes sont extrêmement multiples.
Alors, vous aviez connu Nouméa donc, dans vos jeunes années, et vous dites de Nouméa qu'on vit au rythme du soleil et de la nature, même si quelquefois on a besoin d'un groupe électrogène.
Oui, c'est ça. Oui, on a à la fois besoin du progrès, mais vous voyez, les enfants qui grandissent dans cette nature, par rapport à nos enfants, aujourd'hui, chez nous, je vous donne juste un petit exemple. Le matin, les coqs chantent, la lumière arrive et tout le monde se lève. Et ils ont un rythme de vie qui est rythmé par la planète. Alors que chez nous, vous avez la lumière électrique, l'horloge, il n'y en a plus, il n'y a même pas de pendule qui sonne comme dans les campagnes. Donc le bébé ne sait pas quelle heure il est. Le plus grand attend que sa mère dise « on va se baigner, on va faire les devoirs » et il résiste parce qu'il ne voit pas l'heure. Nos enfants ne voient pas le jour, que le jour nous est imposé par la planète. On est complètement déconnecté. Je demande toujours aux parents de mettre une pendule dans toutes les pièces de la maison.
Et puis, vous avez été aussi marqué par une chose qu'on ne sait pas beaucoup, l'entrée au lycée La Pérouse se fait au rythme de la Marseillaise.
Oui, à
ça,
l'époque.
Ça, c'est étonnant.
À l'époque, on faisait le lever du drapeau et on se mettait tous en rang devant le drapeau et on devait chanter la Marseillaise. Et il y avait cet esprit patriotique, mais en même temps, contrairement à Hélène Boucher, dont je ne voyais que le plafond à travers les vitres, eh bien là, il y avait la mer qui battait les flancs du lycée. Alors, c'était vraiment magnifique.
Et il n'y a pas que la Marseillaise qui vous a marqué à cette époque-là, une autre chanson aussi.
Only you can make
Only you, des plateurs, ça vous rappelle des souvenirs, Edwige Gentil.
Ah oui, des souvenirs de ma vie de jeune fille et d'adolescente et qui a été quand même... compliqué parce que c'était l'époque où il n'y avait pas d'éducation sexuelle. C'était un mystère. Il n'y avait pas, bien sûr, la pilule, il n'y avait pas le droit à l'avortement. Et donc, nous avons traversé énormément. Par exemple, le consentement, vous voyez, dans mon livre, je vous parle de la notion de consentement. Aujourd'hui, on débat beaucoup. Et je pense que, bien sûr, on ne peut pas dire qu'une jeune fille est consentante avant 15 ans. Certainement pas. Et même après, il faut avoir compris ce que le rapport sexuel avec un homme représentera dans notre construction pour pouvoir dire oui ou non. Et non, je le dis très fort, une jeune fille qui n'a pas 15 ans, en aucun cas ne peut être considérée comme consentante, même si elle a l'air de dire oui, elle ne sait pas à quoi elle pourrait consentir.
C'est un sujet d'actualité. Pour votre culture, je précise qu'Only You, qu'on a entendu, a été en tête du hit-parade de l'époque, la Bourse des Vedettes, pendant 6 mois. C'est la moindre des choses d'espérer la même chose pour votre livre, dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 20 février 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Edwige Gentil.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Edwige Gentil. Alors, on a quand même parlé de ce livre en filigrane à travers les anecdotes que nous avons évoquées. Ce livre sorti le 20 février 2020, Maman de toutes les enfants du monde, aux éditions de l'Archipel. Maman de tous les enfants du monde, c'est ce que vous dites. Et ce livre, vous l'avez voulu, Edwige Gentil, lorsque vous avez compris la souffrance d'une mère un jour.
Absolument. Parce que... aujourd'hui, dans notre société, on ne protège pas assez les mères. Vous savez, on parle beaucoup de la violence faite aux femmes. Mais la violence faite aux mères, c'est x10. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'être violent avec une mère parce qu'elle est beaucoup plus fragile. Quand on est maman, on est fragile. Parce qu'on veut le bien de son enfant. Le bien de son enfant, c'est peut-être de subir la violence physique ou psychologique de l'homme. Parce que comment faire entre les deux ? Les femmes souffrent énormément. Je trouve que notre société ne protège pas assez les mères, non seulement les femmes, mais les mères. Et donc l'enfant, en effet, pourquoi je dis de tous les enfants du monde ? Parce que par toute ma jeunesse, dans les rizières, dans les paillotes, après dans les cases, les yeux des enfants m'ont interpellée. Et l'enfant, il est universel. Or, on a perdu dans notre pays occidental, et surtout en France, la grammaire du développement de l'enfant, du tout petit, du besoin qu'il a d'être porté, d'être compris, d'être parlé. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants qui ont des retards de langage parce qu'on ne les porte pas assez. On dit « tu vas les rendre capricieux ». Et je suis un pédiatre sans arrêt en colère parce qu'on ne comprend pas le développement de l'enfant. Moi, je l'ai vu tout petit, dans ses conditions naturelles, dans ses biens universels, dans ses besoins.
Oui, et vous vous battez contre ce qu'on appelle l'éducation loin du cœur, Edwige Gentier.
Absolument. Je dis qu'ici, nous pratiquons une éducation distale. C'est-à-dire que vous croisez des enfants qui sont dans des poussettes, avec une tétine pour que, surtout, ils ne dérangent pas, voilà, et avec un adulte qui pousse la poussette en téléphonant de son côté. L'enfant a le regard dans le vide, c'est une éducation à distance, distale. Ne le prends pas, tu vas le rendre capricieux, ça veut dire, en fait, il risquerait d'avoir trop besoin de toi. Alors que dans ces pays où j'ai grandi, la vietnamienne, la mélanésienne, elle porte, elle berce, la grand-mère est toujours là, et l'enfant, on ne dit pas qu'il faut le poser. En Indonésie, il y a un proverbe qui dit que si vous posez un enfant par terre avant l'âge de 2 ans, ça porte malheur. Et quand un enfant est porté, il s'enrichit de vos paroles et il s'humanise. Donc, aujourd'hui, on va dire que la mère est fusionnelle, possessive. On est impitoyable avec les mamans. Impitoyable.
Mais vous dites quand même aussi, Edwige Gentier, dans ce livre, une phrase terrifiante, « Il n'est pas facile d'envisager d'être mère quand on a détesté la sienne. »
Oui, bien sûr, et j'ai toujours vu ça. Au point qu'on peut être stérile. C'est-à-dire que quand vous avez renié votre mère, quand vous vous êtes fâché avec votre mère, quand vous avez trouvé qu'elle avait tout faux, que vous l'avez critiquée, rejetée, l'idée d'avoir un enfant, comme m'a dit une petite fille, « Moi, je n'aurai pas d'enfant plus tard, c'est trop dur d'être maman. » Et en même temps, elle était terrible avec sa mère. Donc, il faut aider la relation de la mère avec l'enfant et non pas encourager, comme il y a eu tout un discours contre les mères. C'est toujours de la faute des mamans. Ta mère est folle, il faut te libérer. Le mot d'autonomie, on l'utilise même pour des bébés aujourd'hui. D'autonomie. Et il faut qu'il fiche la paix à sa mère et que sa mère puisse travailler dans la société, prévoir sa retraite, répondre aux caprices de son homme gavé de porno. Excusez-moi, mais les garçons, ils arrivent à 12 ans, ils ont déjà tout vu et ils attendent de leur femme qu'elle leur fasse des gâteries. Et donc, quand elle a un bébé, oh ben là, ça va plus, quoi. Et ils sont parfois très durs avec leur femme devenue mère.
Il y a aussi un autre sujet que vous évoquez et qu'une chanteuse québécoise très connue et qu'on adore, Linda Lemay, a évoqué dans une chanson que vous connaissez peut-être.
J'ai battu ma fille, moi qui couvrais de blâme tous ces idiots en rogne qui disent aimer leur femme et du même coup la cogne. Je veux la consoler, mais je reste immobile.
Vous connaissez cette chanson?
Oui. J'ai assisté à ces spectacles.
Et moi, je me souviens de la création de cette chanson un jour à Deauville, où elle l'a chantée devant un couple d'amis et devant le maire de Deauville, on a tous pleuré.
C'est un cri de mère et voilà, elle est tellement sincère et tellement vraie.
Et ça, c'est le symbole de votre combat aussi.
Complètement. Protéger les enfants, c'est protéger les mères. Or, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup à recomprendre des besoins des enfants, mais je pars toujours des besoins des enfants. Je suis pédiatre et toute la journée, toutes mes consultations réparent les mères. Répare le lien mère-enfant. Et je suis contente quand j'ai le père. Parce que le père, quand on lui fait comprendre ce qui se joue dans le cerveau, dans le développement de son bébé, s'il protège l'enveloppe mère-bébé, eh bien, il joue son rôle. C'est pas un séparateur, contrairement à ce qu'on dit.
Et puis, alors c'est un sujet de polémique très courant en ce moment, la fessée pour ou contre. Et là, parce qu'il y a fessée et fessée, là aussi vous avez...
Ah non, commencez pas à négocier. Non, il n'y a pas fessée et fessée. Il y a juste levé la main sur un enfant.
Voilà, ben, c'est « J'ai battu ma fille », la chanson de Linda Lemay.
Voilà, exactement. Voilà. Et les remords après.
Et ça, c'est un de vos combats.
Ah oui, ça a été mon combat de 9 ans et maintenant, c'est passé dans la loi. 9 ans, alors que ça me paraît tellement évident qu'il ne faut pas frapper un enfant. Mais au départ, tout le monde disait « Non, mais une bonne fessée, ça remet les idées en place. » Et on négociait. « Non, mais il y a la petite fessée sur les couches, la claque, etc. » Et tout le monde, les Français, c'est leur Madeleine de Proust, parce que tout le monde en a donné, tout le monde en a reçu. Mais j'explique bien dans mon livre comment l'histoire de ma sœur aînée, vraiment une personne exceptionnelle, mais élevée avec ses concepts rigoristes et la main levée. J'ai reçu aussi des claques, et beaucoup. Et j'ai vu les ravages que ça a fait sur ma sœur aînée. Et donc, j'ai compris très jeune que mes parents faisaient fausse route. Ça m'a animée. Députée, j'ai proposé la loi. Il a fallu 9 ans pour qu'elle arrive. Et merci beaucoup à Agnès Buzyn qui a rappelé qu'un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Donc, il faut pas, c'est pas un petit sujet.
On est bien d'accord. Dans ce livre, Maman de tous les enfants du monde, vous parlez aussi de vos rencontres marquantes. Vous avez connu Françoise Dolto, la mère de Carlos, vous l'avez connue assez âgée, mais c'est un souvenir fabuleux pour vous.
J'ai été complètement sous, disons, son empreinte. Je dirais que son discours, je l'ai connue quand elle faisait ses émissions avec Jacques Pradel. Et quand elle parlait, j'entendais en écho ce que je constatais, moi, auprès des enfants en consultation. Elle parlait vrai, ce qu'elle disait était vrai.
Parlons vrai, c'est le slogan de Sud Radio, en plus.
C'est voilà. Ça, voilà, c'était bien. Et c'était vraiment, vraiment passionnant. Et évidemment, quand je suis revenue en métropole, j'ai écrit un livre, mon premier, qui s'appelait « Mémoire d'un nouveau-né », où le bébé dit « Mais non, mais vous êtes fou de la façon dont vous me traitez. » Elle l'a préfacé. Et donc, Pradel m'a invitée. Et c'est comme ça que j'ai pu participer à des émissions. Et c'est vrai que j'aime beaucoup essayer de diffuser la bonne parole.
Et il y a aussi quelqu'un qui vous a marqué, que vous avez eu le privilège de rencontrer dans vos jeunes années, Edwige Antier, c'est Robert Debré, en personne.
Oui. Alors, Robert Debré, c'est le père de la pédiatrie française. Je pense qu'aujourd'hui, il serait un peu triste parce qu'il a monté, il a hissé la pédiatrie française à un niveau mondial dans la mesure où il a été visionnaire et il a compris, parce qu'il était bactériologiste au début, il a compris que la médecine de l'enfant, elle passerait par la médecine des gènes, par la médecine de la biologie et il a su de l'immunologie et il a segmenté la pédiatrie dans toutes ses spécialités éminentes. Mais du coup, aujourd'hui, dans les hôpitaux, la pédiatrie est trop fragmentée. Or, on ne peut pas être pédiatre que d'organes, vous voyez. Aller que en neuro, en hémato, et il n'y a plus de pédiatrie globale. Or, Robert Debré disait, un enfant, ce n'est pas un morceau d'adulte, c'est un être humain à part entière qui est en plein développement. Donc, je regrette la pédiatrie globale. Mais vraiment, il nous a lancés sur des voies extraordinaires.
Et vous l'avez rencontré dans vos jeunes années de pédiatrie, je crois.
Oui, j'étais interne à l'hôpital Trousseau. Et il y avait un enfant qui avait une maladie rare, qu'on appelle une mucopolysaccharidose. On m'a demandé de présenter le dossier à Robert Debré. J'étais toute jeune, j'étais vraiment une interne, jeune interne. Quel honneur! C'était, je peux vous dire que j'ai passé des nuits blanches à préparer son dossier pour le présenter. Et il arrivait alors qu'il ne voyait plus encore très clair, qu'il était très vieux. Mais il voulait absolument comprendre où en étaient les progrès dans la médecine génétique et métabolique.
Il faut savoir aussi que Robert Debré a fait de la résistance, d'abord à l'hôpital des enfants malades, puis dans un réseau sous le nom de Flaubert. Et il s'est engagé dans la défense des ouvriers. Et à 17 ans, il a reçu Anatole France dans une imprimerie.
C'est vraiment un personnage très extraordinaire. Et à un moment, on lui avait interdit de continuer dans les hôpitaux pendant la guerre. Quelle honte!
Et puis, justement, son petit-fils, Jean-Louis Debré, vous a permis d'avoir une décoration qui vous a beaucoup touché, Edwige Antier.
Ah, oui, absolument. Si aujourd'hui, j'ai la Légion d'honneur, c'est grâce à Jean-Louis Debré. Et ça m'a vraiment fait une émotion parce qu'il y avait comme une filiation. Beaucoup d'admiration pour la famille.
Et alors, dans votre livre, il y a une révélation quand même. Il y en a beaucoup, mais surtout, on comprend pourquoi Bertrand Delanoë est devenu maire de Paris, Edwige Antier.
Oui, à l'époque, contre Philippe Séguin, moi, on m'a demandé de monter au Conseil de Paris et d'être la tête de liste dans le 8e arrondissement. C'était très intéressant, mais on était partis pour gagner. Vous savez, c'est comme les municipales aujourd'hui. Oui. Hein. Donc, on avait la majorité, d'ailleurs, aux voix, la liste de Philippe Séguin, qui était un grand humaniste social, gagné. Sauf que ça se joue après par arrondissement et surtout qu'il y a eu la liste de M. Tiberi. Et quand Jacques Chirac, qui était président de la République, a reçu le soir, je me souviendrai toujours, M. Tiberi, Philippe Séguin attendait que Jacques Chirac débranche Tiberi. Et ça fait comme aujourd'hui avec M. Villani, Tiberi est sorti de l'Élysée en disant « je me maintiens ». Et du coup, Philippe Séguin a compris qu'il avait perdu la mairie. Et ça, c'est Delannoy qui est passé.
Et ça arrangeait finalement Jacques Chirac de ne pas avoir un adversaire de plus.
C'est bien mon analyse, parce que sinon Séguin se serait présenté sans doute contre lui aux prochaines présidentielles. Tout ça est bien calculé à plusieurs coups d'avance.
Alors, des analyses, vous en faites beaucoup dans ce livre, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et votre avenir, c'est continuer ainsi, Edwige Antier.
Énormément. Continuer de soutenir les mères, de leur faire comprendre les enfants, d'aider les pères à comprendre, comme disait Dolto, que le bébé est une personne et que c'est un honneur d'avoir un enfant à élever et qu'il ne faut pas lutter contre la mère en la trouvant possessive fusionnelle. Et mon gros travail aujourd'hui, c'est pour le repérage précoce des enfants autistes, car si on les repère précocement, on peut diminuer considérablement leur handicap.
Vous avez encore beaucoup de choses à faire, oui, au-delà de ce livre de plus de 350 pages
merci,
qui s'appelle « Maman de tous les enfants du monde » aux éditions de l'Archipel et que je recommande à celles et ceux qui, comme nous, aimons les enfants.
Oui, restez le grand enfant que vous êtes.
Je ne changerai pas. Merci Edwige Antier. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci. À demain.